Nous allons poursuivre cet après-midi ce que nous avions commencé dimanche dernier, notre étude de l'homme selon le cœur de Dieu comporte plusieurs parties. Nous verrons dans les dimanches où je reviendrai d'ici l'été si nous pourrons continuer cette étude. Elle est prévue en 4 ou 5 parties parce que nous l'avons vu la semaine dernière. L'homme selon le cœur de Dieu est d'abord un homme qui a cultivé ou qui cultive pendant sa vie la foi en Dieu. Nous avons vu la semaine dernière comment David, quand il était encore jeune, on a dit, et je le répète cet après-midi, David avait probablement à peu près 15 ans, à 1 ou 2 ans près, il n'y a pas de précision suffisante. Pardon. Dans la Bible, pour nous indiquer exactement quel âge avait David quand il a été appelé par Dieu et a été oint d'huile par le prophète Samuel, nous avons vu que cette foi qu'il a cultivée dans sa jeunesse, au contact des difficultés, mais en mettant toujours sa confiance en Dieu, a créé en lui une forte conviction qu'un jour, Dieu le mettrait sur le trône. Je dis bien Dieu le mettrait sur le trône. Et il a vécu toutes ces années, c'était le troisième point, dans la présence de Dieu, dans la conscience qu'il vivait sous le regard de Dieu, que Dieu le voyait, que Dieu savait tout ce qu'il faisait, et que Dieu même, puisque c'est un des textes que nous avons lus la semaine dernière, Dieu regarde au cœur, ce qui sous-entend qu'il voit dans les cœurs. Ce que l'homme ne peut pas voir, ce que l'être humain ne peut pas voir, Dieu le voit. Parce que rien n'est caché devant ses yeux. Nous allons voir dans les semaines qui viennent, et aujourd'hui, en commençant par aujourd'hui, que l'homme, selon le cœur de Dieu, a aussi d'autres caractéristiques. L'homme qui veut, quand je dis l'homme, bien sûr, cela veut dire l'homme ou la femme, l'être humain en général, doit manifester d'autres caractéristiques pour plaire vraiment à Dieu. Nous allons voir cet après-midi que l'homme, selon le cœur de Dieu, est une personne patiente. Nous verrons après, en troisième partie, que l'homme, selon le cœur de Dieu, est un homme qui fait preuve d'humilité. Et en quatrième partie, nous verrons que l'homme, selon le cœur de Dieu, a de la compassion dans le cœur. Et puis si l'occasion se présente avant l'été, je ne sais pas combien de dimanches encore ils sont prévus pour moi, pour venir vous voir, si nous avons le temps, nous terminerons par cette pensée que l'homme selon le cœur de Dieu est un homme qui, croyant en Dieu, conquiert de nouveaux territoires. Et nous parlerons à ce moment-là de la manière dont David, pour la première fois dans l'histoire d'Israël, a conquis, s'est emparé de la ville de Jérusalem, que personne avant lui n'avait conquis. Donc cet après-midi, nous allons parler, pendant ces quelques minutes, de la patience de l'homme selon le cœur de Dieu. Acte 13, 17 à 22, qui vient d'être lu, nous apprend que le règne de Saül, le roi, donc le premier roi d'Israël, qui a précédé David, le roi Saül a régné 40 ans sur Israël. Nous verrons peut-être plus tard que David a lui aussi régné 40 ans sur Israël. Mais le point important cet après-midi pour nous, c'est de bien comprendre que entre le moment où David a été appelé, donc vers l'âge de 15 ans environ, et le moment où il est monté effectivement sur le trône, il se sont écoulés peut-être une quinzaine d'années. Nous verrons plus tard que entre le moment où David est monté sur le trône et le moment où il a régné sur tout Israël, il a fallu attendre encore 7 ans. Parce qu'au début, il n'a pas régné sur tout le pays, mais juste sur le sud du pays. La patience de l'homme de Dieu, c'est bien sûr cet après-midi pour nous, la patience de David. Il y a toujours un décalage dans le temps entre l'appel de Dieu et l'entrée effective dans le service. Nous le voyons dans l'Ancien Testament. Nous avons l'exemple, par exemple, de Moïse, qui a ressenti l'appel de Dieu pour délivrer son peuple d'Israël, alors qu'ils étaient tous ensemble en Égypte. Moïse a ressenti cet appel à l'âge de 40 ans. Mais la Bible nous montre, le livre de l'Exode nous montre, que Moïse a attendu 40 ans avant d'entrer véritablement au service de Dieu. 40 ans, c'est très long. Un certain nombre d'entre vous n'ont pas 40 ans, même beaucoup moins. Quelques-uns d'entre nous, nous avons plus que 40 ans. Mais si on disait, est-ce que tu te rappelles ce que tu faisais il y a 40 ans? Bien sûr, si nous ne sommes pas malades, nous nous rappelons. Mais ça paraît bien loin, bien loin. Il y a 40 ans, j'étais jeune marié. Mais j'ai un fils qui maintenant, l'année prochaine, fêtera ses 40 ans. Ça me paraît très loin, très très loin. Eh bien Moïse, alors que aux yeux des hommes, il était armé, il avait les compétences, il avait fait les meilleures études du monde. La Bible dit qu'il avait été élevé, qu'il avait été éduqué, dans toute la sagesse des Égyptiens. Aujourd'hui, on dirait, cet homme-là, il a tout le bagage nécessaire pour libérer un peuple. Et cependant, Dieu lui a fait attendre 40 ans dans le désert à garder des moutons. C'est comme si vous sortiez de Polytechnique et qu'on vous disait, maintenant, tu vas aller garder des moutons dans le centre de la France. La patience est indispensable à l'homme de Dieu. On pourrait citer d'autres exemples. Nous avons l'exemple de Caleb, que je crois avoir déjà cité dans le passé. Caleb qui avait reçu la promesse de Dieu, qui était prêt à entrer. Lui, il n'était pas comme Moïse. Moïse n'était pas prêt à 40 ans. Il ne l'était qu'à 80 ans. Mais Caleb, à 40 ans, était prêt à entrer dans le pays promis. Il était prêt à conquérir ce pays. Il avait la foi. Il était animé du bon esprit pour le faire. Et pourtant, Dieu lui a fait attendre 40, voire même 45 ans exactement, pour pouvoir entrer en possession du territoire que Dieu lui avait promis. Ces hommes-là ont appris qu'avec Dieu, le temps n'est pas tout à fait le même que pour les hommes en général. Surtout pour nous aujourd'hui qui vivons à l'époque où tout doit être instantané. On veut tout de suite obtenir ce qu'on a rêvé d'avoir. Et on est prêt à faire beaucoup pour cela. Quand on nous promet quelque chose, on le veut tout de suite. Nous nous comportons même à l'âge adulte, parfois dans la société actuelle, comme les enfants, quand on leur dit « Tiens, si tu es sage, tu auras ça. » « Mais je suis sage !» D'ailleurs de dire « Je peux l'avoir tout de suite. » L'enfant n'a pas la notion du temps qui doit s'écouler nécessairement pour pouvoir obtenir les choses en leur temps. Il y a une nécessaire, dans la Bible, il y a une nécessaire maturation du temps. Pourquoi la patience fait-elle partie du bagage, des caractéristiques de l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que Dieu lui-même est patient. C'est ce qu'il est dit dans la Bible. Dieu est patient. Il y a plusieurs textes qui nous parlent de cela. Dieu, il nous est parlé par exemple dans la première lettre de l'apôtre Pierre, au chapitre 3, verset 20, il nous est dit que à l'époque de Noé, la patience de Dieu se prolongeait pendant la construction de l'arche. Pourquoi est-ce que la patience de Dieu se prolongeait? Donc pourquoi est-ce que Dieu faisait preuve d'une très grande patience? Il faisait cela parce que il voulait sauver tous les habitants de l'époque. Dieu savait que seul Noé, sa femme et ses enfants croyaient au projet de l'arche et de la venue du déluge, qui nécessitait la construction de l'arche. Mais Dieu faisait preuve de patience, parce qu'il espérait que pendant toute la construction de l'arche, et vous savez que la Bible dit que Noé a travaillé 100 ans, alors bon, c'était une autre échelle à l'époque, Noé a travaillé 100 ans pour préparer l'arche, pour construire l'arche. Bien sûr, je pense que ses fils devaient l'aider, et qu'il devait y avoir d'autres personnes qui l'aidaient. Et ces autres personnes qui aidaient ne croyaient peut-être pas au projet, mais ils se disaient, après tout, on a un travail, c'est bien d'avoir un travail, donc on va travailler à ce projet. On n'y croit pas vraiment, mais on va y travailler. Ils ont donc travaillé tous ensemble à la construction de cette arche, et la Bible dit que pendant tout ce temps, Dieu patientait, espérant que certains comprendraient et seraient sauvés. Dans 2 Pierre 3,9, nous lisons aussi que Dieu ne tarde pas, il parle ici, Pierre, l'apôtre Pierre parle ici à ceux qui trouvent que les promesses de Dieu tardent à s'accomplir, et Pierre écrit ceci pour eux, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Donc Dieu est quelqu'un qui fait constamment preuve de patience. Et un peu plus loin, Pierre dira encore cette dernière chose, « La patience du Seigneur est votre salut. » Donc Dieu est patient, par nature. Mais la patience, il nous la propose aussi à chacun de nous. La patience n'est pas forcément inscrite dans nos gènes. Il y a des gens qui, par nature, sont plus patients que les autres. Mais ce n'est pas pour cela une excuse pour les autres de se dire « Moi, je ne suis pas patient de nature, donc c'est pas mon affaire, la patience. » On ne peut pas dire cela quand on est chrétien. Pourquoi ? Parce que, par exemple, dans Galates 5, 22, nous lisons que « Dans le fruit de l'Esprit de Dieu qui vient habiter dans le chrétien lorsqu'il comprend qu'il peut devenir enfant de Dieu, lorsqu'il se convertit, lorsqu'il se repent, lorsqu'il obtient le pardon de Dieu, lorsque Dieu le pardonne, Dieu donne à cette personne qui le désire, qui reconnaît ses péchés, qui veut vivre une vie nouvelle, Dieu donne son esprit. Et parce que Dieu donne son esprit, cet esprit va se comporter comme l'esprit de Dieu. Et l'apôtre Paul décrit le comportement de cet esprit dans la vie de chaque chrétien. C'est donc quelque chose que chacun peut revendiquer s'il est un enfant de Dieu. Et l'apôtre Paul écrit ceci dans Galates 5, 22. C'est un texte relativement connu. Galates 5, 22 dit ceci. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Et puis il y a aussi la bonté, la bienveillance. Nous verrons la bienveillance un peu plus tard dans cette même étude. La foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc, après l'amour, la joie, la paix, il y a la patience. Et ça ne veut pas dire qu'on obtient d'abord l'amour, puis après la paix, puis après... Non. Ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu vient habiter dans le croyant, tout cela va se développer, si ce croyant se comporte normalement, tout cela va se développer dans sa vie. Nous verrons que David, dans les semaines suivantes, nous verrons que David a développé plusieurs de ces aspects du fruit de l'esprit dans sa vie. J'ai mentionné la compassion, qui est la bienveillance, c'est le même mot dans la Bible, dans le texte original de la Bible, mais il y a bien d'autres choses. L'homme qui reçoit l'Esprit de Dieu va pouvoir développer lui aussi la patience dans sa vie. David a compris, et je ne sais pas comment David l'a appris cela, mais quand David a été oint d'huile pour signifier qu'il allait un jour régner sur Israël, David a compris tout de suite qu'il allait retourner pour l'instant, aller à garder ses troupeaux. Il ne s'est pas dit, maintenant que je suis choisi pour être roi, c'est mon tour. Il faut que j'aille voir le roi Saül et lui dire, écoute roi, majesté, je ne sais pas comment il l'appelait, maintenant c'est mon tour. Je crois qu'il aurait, ça se serait mal terminé pour lui s'il avait fait comme cela. Aucun roi n'aime qu'on lui dise, alors qu'il est bien vivant, qu'il est encore jeune, c'est mon tour. Non, David a compris que Dieu l'avait choisi. Il est retourné garder ses troupeaux, comme nous l'avons vu la semaine dernière, et il a continué à vivre normalement, en se disant, un jour, mon tour viendra. Et les deux textes que nous avons lus tout à l'heure, avant de lire dans les Actes, sont deux épisodes de la vie de David entre son appel et sa montée sur le trône. Pendant environ, on ne pourra pas être plus précis, pendant environ une quinzaine d'années, David a continué sa vie de berger. On peut supposer que vers la fin, il est devenu soldat. De temps en temps, nous dit la Bible, le roi Saül l'appelait pour qu'il vienne jouer de la musique, parce que David est un excellent musicien, un excellent compositeur de chants, nous en avons pas mal dans les psaumes qui sont de lui, Et Saül, dans ces moments où il n'était pas de bonne humeur, où il était troublé, agité, Saül aimait que David vienne pour jouer de la musique. Mais vous savez que quelquefois, Saül, prenait cette excuse de le faire appeler, et en fait, il essayait de le tuer. Parce qu'il savait que c'est lui qui allait lui succéder. Et il se demandait sans doute quand est-ce qu'il va monter sur le trône. Et comme à l'époque, il n'était pas rare, il était même fréquent, qu'un roi monte sur le trône en renversant le roi d'avant, en le faisant tuer, pour pouvoir mieux prendre sa place. Saül, devait se demander si ça allait lui arriver un jour. Et donc il a essayé de se débarrasser de lui, comme nous l'avons dit la semaine dernière, je crois, comme le roi Hérode a essayé de se débarrasser de Jésus parce qu'on l'avait présenté comme le roi des Juifs. Mais quand Dieu a un plan, Dieu prend son temps, mais Dieu accomplit son plan, toujours. Et pourquoi avons-nous lu ces deux autres textes dans 1 Samuel, chapitre 24, puis chapitre 26 ? Ce sont deux épisodes. Deux épisodes un peu différents l'un de l'autre. Le premier épisode, c'est David qui rentre dans une caverne pour se mettre un peu à l'ombre, pour se reposer avec ses soldats les plus fidèles. Et puis, le roi Saül entre lui aussi dans la caverne et il reste là un moment et il ne sait pas que David est au fond. Mais David le voit. Et David veut marquer le coup. Il veut montrer au roi qu'il ne veut pas le tuer. Et en faisant cela, il va simplement couper un petit morceau de son manteau. Vous savez, les rois, si on coupe un peu de leur manteau, c'est pas grave. C'est pas comme vous, si on vous coupe un bout de votre manteau. Les rois, ils en ont je ne sais combien de manteaux, ils peuvent s'en procurer facilement. Mais David coupe un bout du manteau, pourquoi ? Pour montrer au roi Saül qu'il l'a vu, qu'il s'est approché de lui, qu'il aurait pu, parce qu'il a dû s'approcher de lui par derrière, sinon Saül l'aurait vu, qu'il s'est approché de lui par derrière et que s'il avait voulu, il aurait pu lui planter, excusez-moi l'expression, il aurait pu lui planter son épée dans le dos et le tuer. Et le deuxième épisode est un épisode qui ressemble un peu au premier, en ce sens que David va avoir une nouvelle occasion, une nuit, alors qu'il n'est pas très loin du camp de l'armée de Saül, et que du haut d'une hauteur, à partir d'une hauteur, il voit que le roi est en train de dormir, alors il descend dans le camp, il rentre dans la tente de Saül, et pour lui montrer qu'il est bienvenu, il prend une cruche et une lance, la cruche qui servait au roi pour boire et sa lance, et il les emporte. Et cela nous montre plusieurs choses. D'abord, David est conscient du fait que quand Dieu a un plan, c'est lui qui doit décider quand l'accomplir. Quand Dieu a un plan, nous devons toujours attendre l'heure de Dieu pour accomplir ce plan. Si Dieu nous montre quelque chose et qu'il ne nous montre pas quand cette chose va se réaliser, nous devons faire preuve de patience et attendre le moment de la réalisation de ce plan. David était conduit par un profond désir d'obéir à Dieu et de s'attendre entièrement à lui. Lorsque, la première fois dans le premier texte, nous lisons que David donc est dans la caverne et le roi Saül entre dans cette caverne, il y reste un petit moment, mais il ne voit pas donc Saül, comme je viens de le dire. Les amis de David qui sont avec lui et qui assistent à la scène, qui voient le roi tout près, et disent à David, c'est au chapitre 24, verset 5, les gens de David, donc ses plus proches collaborateurs, lui dirent, quand ils ont vu Saül entrer dans la caverne et rester un moment, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. » « Traite-le comme bon te semblera. » Pour les amis de David, cette venue soudaine de Saül dans la caverne, sans qu'il sache que David et ses amis sont là, et le fait que le roi Saül se trouve à portée de main de ses ennemis, enfin de ceux qu'il considère lui comme ses ennemis, à savoir David et ses collaborateurs, cela pour les amis de David, c'est un signe de Dieu. Ils savent, ils raisonnent comme cela, ils savent que Dieu a appelé David à prendre la place de Saül. Ils le savent puisque Dieu l'a révélé. Ils savent que David va succéder au roi Saül. Et comme ils voient le roi Saül à portée de main, comme ils savent peut-être que Dieu a déjà rejeté Saül parce qu'il ne lui obéit pas, ils se disent simplement, puisque d'un côté Dieu t'a appelé David à monter sur le trône pour remplacer Saül, puisque Saül est là, lui le roi qui n'obéit pas à Dieu, qui ne plaît pas à Dieu, finissons-en, tue-le et tu monteras sur le trône et tu accompliras comme cela le plan de Dieu. Quelque part c'est vrai, le plan de Dieu c'est que David monte sur le trône. Mais quand Dieu a un plan, il est non seulement maître du timing du plan, mais il est maître aussi de la manière, des moyens qu'il faut utiliser pour accomplir ce plan. David savait une chose très importante. Dieu ne peut pas accomplir sa volonté et son plan en autorisant un homme à violer l'un de ses commandements. En l'occurrence, ou pour être plus clair, tuer Saül aurait été une violation du commandement qui dit « tu ne tueras point ». Et même si cela peut correspondre au plan de Dieu, tuer Saül, bien sûr, aurait été un moyen de hâter la montée de David sur le trône. Dans ce sens-là, ce n'était pas contraire au plan de Dieu de la succession du roi. Mais ça aurait été contraire au plan de Dieu qui veut que qu'on ne tue pas son semblable. Et cela est important parce que nous devons nous rappeler ceci, que Dieu ne peut pas accomplir sa volonté et son plan par des moyens qui constitueraient une violation de ses commandements. Les circonstances et la pensée de l'esprit seront toujours en accord avec la volonté de Dieu exprimé dans sa parole. C'est ce que David explique à ses amis dans le deuxième texte que nous avons lu dans 1 Samuel. Quand David dit à son ami qui veut tuer Saül, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et David dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. David sait que le premier roi, Saül, quel que soit le comportement qu'il a maintenant, à savoir qu'il désobéit constamment à Dieu, David sait que ce premier roi, Saül, a été choisi par Dieu exactement comme lui-même vient d'être choisi. Par conséquent, il y a des valeurs absolues dans cette histoire. C'est Dieu qui a choisi Saül. Et personne ne peut mettre un terme à son règne si ce n'est Dieu lui-même. Et quand David dit ceci, c'est à l'Éternel seul de le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, à savoir soit qu'il meure de maladie dans son lit de mort, sur son lit, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. On pourrait même dire que là, il y a comme une prophétie de David, puisque c'est comme cela que Saül va mourir. Il va mourir sur le champ de bataille. Il va mourir sur le champ de bataille en même temps que son fils Jonathan, le grand ami de David. Donc David prédit par cette parole la manière dont Saül va tomber. Et ce n'est, nous le verrons peut-être plus tard, ce n'est que lorsque Saül périt sur le champ de bataille que David va pouvoir monter sur le trône selon la promesse, selon la prophétie du prophète Samuel. C'est donc ce que David exprime dans ce deuxième texte. Dieu est totalement souverain. Mais les choses que Dieu déclare, les promesses que Dieu fait, ne sont pas au-dessus de tous les commandements de Dieu. Si Dieu nous promet quelque chose, Si, par exemple, en lisant la Bible, nous avons la conviction, en lisant un certain texte que nous avions déjà lu bien des fois avant, et tout d'un coup, nous avons l'impression que ce texte nous parle d'une manière particulière, que cette promesse faite dans la parole de Dieu est pour nous maintenant, ce n'est pas parce que cette parole vient de Dieu que nous devons nous dire « Maintenant, je peux faire ce que je veux pourvu que cette promesse s'accomplisse » ou « Pourvu que je puisse hâter l'accomplissement de cette promesse ». Non. La parole de Dieu, donnée sous forme de promesse, ne peut pas annuler, détruire, effacer, surpasser toute autre parole de Dieu. C'est peut-être dans ce sens, d'ailleurs, que Jésus avait dit dans le sermon sur la montagne, « Je ne suis pas venu pour abolir, sous-entendu, la loi de Dieu, je suis venu pour l'accomplir. » Parce que dans son sens le plus profond, dans son sens le plus absolu, la loi de Dieu est immuable. Certaines dispositions de cette loi de Moïse ne sont plus d'actualité parce que Jésus a accompli ces choses-là. Mais le fond de la loi, l'amour, le respect de Dieu, le respect des parents, honore ton père et ta mère, etc., etc., toutes ces choses sont immuables. Elles sont l'expression de la volonté de Dieu dans toutes les situations et dans tous les siècles. Et c'est la grande leçon de ces deux anecdotes, de ces deux histoires que nous avons lues cet après-midi. C'est le sens du texte de Actes que nous avons lu juste après. Tout cela nous montre que l'homme selon le cœur de Dieu est un homme ou une femme qui va toujours respecter tout ce que Dieu dit et tout ce que Dieu décide. Mais ce n'est pas à nous de hâter le plan de Dieu, la réalisation de ce plan. Nous devons simplement avancer en mettant en pratique sa parole. Si nous voulons être un homme, une femme, selon le cœur de Dieu, nous devons savoir et nous rappeler toujours que la patience est de Dieu, elle vient de Dieu, elle est à la disposition de tout chrétien, elle sera très utile dans la vie, et elle nous permettra de voir les choses comme Dieu les voit et d'attendre leur accomplissement selon l'heure de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu manifeste donc sa foi totale en Dieu par sa patience à toute épreuve, car il sait, comme le dit un des psaumes, que ses destinées, son avenir, est dans les mains de Dieu. Le temps ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Dieu a son propre timing, pour employer un mot bien d'aujourd'hui, et ce timing est important. Les promesses de Dieu sont une chose, la date de leur accomplissement en est une autre, et elles sont uniquement dans la main de Dieu. Seul compte la fidélité à ce Dieu Tout-Puissant qui saura mener à bien son plan. Alors entrons dans son plan, faisons-lui confiance et apprenons à y rester. Que le nom du Seigneur soit béni.